descendant de Maternante. Alors, il va faire comme il sait parfois aussi le faire, son regard planté dans le sien, l'interrogeant sans un mot, exigeant le silence ou des explications par la seule insistance des yeux, du visage fixe, de la nuque tendue. Tu parles de quoi? De moi? T'es en train d'expliquer que ton fils est un taré qu'il faut déconnecter de ses potes pour qu'il comprenne enfin la vie? Elle ne lui répond pas tout de suite. Elle sourit. Reprend ce qu'elle disait à Jamila. Bektash propose à Samuel une autre bière. Mais Samuel refuse. Leurs bières sont trop dégueulasses, dit-il. Mais cette fois, il le dit à voix haute, en regardant sa mère, posant chaque mot, fusillant du regard les gens, les murs, lentement, sûr de lui. Tu comprends pas? Tout est dégueulasse ici. C'est des porcs, leur bouffe, leur fringue, leur putain de tapis en feutre. Ils ont l'air crades, et ça pue trop le mouton ici. Les autres le regardent, et il sourit. Bektash tend une assiette, mais Samuel ne la regarde pas. Il s'en fout. Il repousse l'assiette. Sibyl ne dit rien. Elle ne répond pas. Elle affronte le regard de son fils. Jamila et Bektash lui sourient en retour. Jamila se lève pour débarrasser. Demain on travaille et il est tard. Au-dessus, l'ampoule jaunâtre grésille, faiblit, puis reprend. Demain Bektash ira à la ferme. Les voisins travailleront tôt, eux aussi. Ils prennent congé. Sibyl dit au revoir très chaleureusement. Samuel la voit qui s'intéresse à eux, des musulmans, des paysans. Et il la regarde avec mépris et incompréhension. Ils ont presque les mêmes gueules et les mêmes dégaines que les Roms qui traînent chez nous, dans la rue, devant les magasins. Si sa mère les voyait au-dessous de chez elle, en train de faire la manche, il se dit, je suis sûr qu'elle n'aurait même pas un regard pour eux. Le lendemain, ils ont repris la route depuis déjà une bonne demi-heure, quand les galops les surprennent. Ils avaient pris le temps de dire au revoir à Jamila et Bektash, pris un petit déjeuner copieux, bu du lait, du thé, mangé des gâteaux. Ils avaient scellé les chevaux et préparé les paquets, puis ils avaient repris leur route. Ils allaient se retrouver au pied de la montagne, finalement pas très loin de là où Bektash et sa femme les avaient sauvés. Ils étaient partis sans se dire un mot, après une nuit qui avait été courte mais reposante. Dormir sur un matelas, c'est toujours un peu la certitude d'un sommeil réparateur, dont le corps devra profiter le plus possible, parce qu'il sait qu'il ne retrouvera pas un tel confort avant plusieurs jours. La journée de repos a été bonne, malgré la peur qu'on a eue le matin, malgré la mauvaise humeur de Samuel, malgré aussi tout ce qu'on a bu et mangé la veille au soir, et cette légère gueule de bois qui raidit le corps au réveil. Sibyl a regardé les plans, tout est prêt. On reprend le voyage en se dirigeant vers la montagne. Et donc, soudain, des galops. Ils viennent de loin. On entend les cris qui les accompagnent, sans doute pour motiver le cheval. Samuel et Sibyl se demandent sans rien se dire si c'est vers eux qu'on vient, s'il faut attendre ou au contraire tenter d'éviter la rencontre, s'il faut se mettre à galoper et s'enfoncer dans la montagne. On hésite. Les chevaux sont calmes. Ils en profitent pour paître et avaler quelques fleurs des champs. La terre est plus aride déjà. La poussière badigeonne les sabots des chevaux. Et tout à coup, cela se redresse. Sidious, le premier, parce qu'il est toujours plus nerveux ou plus rapide, plus vif que Starman. Mais les deux, soudain, écoutent. Ils entendent le cheval. Sibyl décide qu'il faut attendre. Peut-être qu'ils ont oublié quelque chose chez Bektash. Il est encore assez loin quand ils reconnaissent, d'abord le cheval. Ce petit cheval vif, un carabère gris à la jolie tête fine mais à la mâchoire large. Et puis bientôt le fils de Taberbek, le voisin. Celui-là même qui réparait une vieille bagnole la veille avec son père. Il arrive à toute vitesse, le corps penché sur le cheval, et il descend de sa monture à une vitesse stupéfiante. Ils n'ont pas vraiment le temps de voir, de comprendre. Voilà, il est entre eux et sourit de sa grande bouche qui souligne sa barbe naissante, une sorte de duvet encore clairsemé et fin comme des cheveux filasses. Il sourit d'un sourire franc et beau, essoufflé, et il caresse le cheval de Sibyl. Mon père voudrait vous donner un cadeau. Alors on descend de cheval. On se penche sur le sac de feutre que le jeune garçon ouvre. Quel âge a-t-il? Entre 12 et 15 ans, pas plus. Il tend un paquet, c'est-à-dire un chiffon de feutre, une forme courte et oblongue. Sibyl hésite.